Chapitre 11. Nouvelles de Terrilleville. Passé qu'elle cède, que le vent t'aide. Ce vieux dicton s'appuie sur de saines observations. Une fois que votre navire a doublé les ports chalcédiens et leur cité aussi ancienne que le mal lui-même, déferlez vos voiles et avancez rapidement. Les rivages maudits, au sud de Chalcède, portent bien leur nom. L'eau issue du fleuve des pluies rongera vos barils et brûlera la gorge de vos marins. Les fruits de cette contrée attaquent la bouche comme un acide et laissent les mains couvertes d'ulcères. Après l'embouchure du fleuve, n'embarquez point d'eau puisée à terre. Elle devient verte au bout d'un jour et grouille de vermine gluante au bout de trois. Elle souille si bien les tonneaux qu'elle les rend définitivement impropres à tout usage. Mieux vaut rationner durement l'équipage qu'accoster nulle part, que ce soit dans le but de s'abriter d'une tempête ou de mouiller dans une anse accueillante pour une journée de repos. Rêves et visions se mettront à hanter l'esprit de vos hommes et votre bâtiment sera bientôt le théâtre de meurtres, de suicides et de mutineries imprévisibles. La baie qui paraît offrir un refuge sûr et hospitalier peut s'emplir de féroces serpents de mer à la nuit tombée. À la crête des vagues se montrent des sirènes à la poitrine opulente et à la voix enchanteresse. Mais celui qui plonge à la rencontre de ces délicieuses créatures se fera entraîner au fond pour servir de nourriture aux mâles aux crocs affûtés qui s'y tapissent. Le seul port sans risque de cette région est celui de Terrilleville. Le mouillage y est bon, mais il faut vous méfier des quais où des vaisseaux ensorcelés peuvent lancer des maléfices sur vos honnêtes navires de simple bois. Mieux vaut éviter de vous y amarrer. Jetez l'ancre au milieu de la baie des marchands et rendez-vous à terre à bord de canots et faites de même embarquer les cargaisons. L'eau et les vivres qu'on peut se procurer dans ce port ne recèlent aucun danger. Mais certains articles que vendent les boutiques n'ont rien de naturel et risque de faire peser le mauvais sort sur un voyage. On peut vendre et acheter toutes sortes de produits à Terrilleville, et ce qu'on y trouve ne ressemble à rien de connu dans le reste du monde. Toutefois, interdisez à vos hommes de s'éloigner de votre bâtiment, et que seul le commandant et le second se mêlent à la population. Il est préférable pour les marins ignorants de ne pas poser le pied sur ce sol, car il a le pouvoir de ravir l'esprit des individus à l'intellect limité. C'est à juste titre qu'on dit, ce qu'un homme peut imaginer, il peut l'acheter à Terrilleville. Mais tout ce qui est imaginable n'est pas de bonne aloi, et c'est le cas de bien des choses qui se vendent dans cette cité. Prenez garde aussi aux habitants dissimulés de ce pays qu'on aperçoit parfois la nuit. Le capitaine qui croise un des voilés de cette ville en regagnant son navire est assuré d'être victime de la plus terrible des malchances. Mieux vaut passer la nuit à terre et attendre le lendemain pour retourner à votre vaisseau plutôt que prendre la mer aussitôt après un présage aussi noir. Au départ de Terrilleville, quittez la sécurité du chenal intérieur et guidez votre bâtiment du côté du désert des pluies. Vous risquerez moins à braver les tempêtes et le gros temps qu'à tenter les pirates, les serpents, les sirènes et les autres qui hantent ces parages. Sans parler des hauts fonds changeants et des courants perfides. Ne vous arrêtez pas avant d'arriver à Jamaïlia la corrompue, aux nombreux ports bruyants. Et là encore, serrez la bride à votre équipage, car il est de notoriété publique que l'enrôlement de force des marins est pratique courante là-bas. Conseil au marchand navigateur du capitaine Banrop. Je laissai un billet au prince de voir sur la table de la tour d'art. Il disait simplement « Demain ». Avant la relève de la garde, à l'aube, je me trouvais devant l'établissement de Maître Guindast. La lumière des lampes à l'intérieur s'étendait en longues et fines tranches dans la cour enneigée. Dans cette pénombre, les apprentis allaient et venaient à pas crissants, portant des fagots et de l'eau pour le logis et l'atelier de l'ébéniste, dégageant la neige des chemins et des toiles qui protégeaient les réserves de bois. Je cherchais en vain heure parmi eux. Le monde avait commencé à se parer de couleurs au soleil approchant quand il se montra enfin. On voyait au premier coup d'œil à quoi il avait occupé sa nuit. Dans son regard brillait encore une étincelle d'étonnement, comme s'il ne parvenait pas à mesurer sa bonne fortune, et il y avait un chaloupé dans sa démarche qui aurait pu évoquer l'ivresse. Affichai-je cet air radieux au matin, après que Molly s'était donnée à moi? Je tâchai d'endurcir mon cœur et criai.
« Heur, je voudrais te dire un mot. »
Il s'approcha de moi en souriant.
« Il faudra faire vite alors, Tom, car je suis déjà en retard. »
Le jour était bleu et blanc, l'air sec et froid, et mon fils me regardait d'un air rayonnant. Je me fis l'impression d'un traître à tout cela quand je dis « Et je sais pourquoi tu es en retard, tout comme le père de Svania. Nous vous avons cherché hier soir. » Je m'attendais à le voir baisser le nez, mais son sourire ne fit que s'élargir. Un sourire de connivence entre hommes.
« Eh bien, je suis content que vous ne nous ayez pas trouvés. »
Un désir irrationnel de le frapper me saisit, afin d'effacer de ses traits son expression béate. C'était comme s'il se tenait au milieu d'une grange en feu, en compagnie de Svania, et se réjouissait d'avoir chaud, sans penser au péril qu'il courait. Je compris alors que mon exaspération venait de là, de son inconscience face au danger auquel il exposait son ami, et je ne pus empêcher ma colère de percer dans ma voix, alors que je tentais de le ramener à la réalité. J'en conclus que Maître Cordaguet n'a pas réussi à vous dénicher non plus, mais j'imagine qu'il sera chez lui au retour de Svania. Si j'avais espéré doucher son insouciance, je me trompais.
« Elle le savait, » répondit-il d'un ton serein, « et elle a estimé que le jeu en valait la chandelle.
« Allons, ne prends pas l'air si grave, Tom. Elle connaît tous les trucs pour embobliner son père. Tout se passera bien. »
Ça peut se passer de nombreuses façons, mais ça m'étonnerait que bien fasse partie du lot.
La colère rendait ma voix grinçante. Comment pouvait-il afficher une telle désinvolture?
Sers-toi de ta cervelle, mon garçon. Comment ses parents vont-ils réagir? Comment leur vie de tous les jours sera-t-elle affectée quand ils apprendront que leur fille a fait ce choix? Et toi, que feras-tu si elle tombe enceinte?
Son sourire disparut enfin, mais Heur demeura droit comme un i et ne baissa pas le regard.
C'est à moi de m'en inquiéter, je crois, Tom. Je suis assez grand pour me prendre en charge. Mais si ça peut te tranquilliser, elle m'a dit que les femmes disposent de moyens pour éviter ce genre d'accident. Du moins, en attendant que nous soyons prêts, que je puisse l'épouser.
Peut-être les dieux nous punissent-ils en nous plaçant face à nos propres erreurs et en nous obligeant à voir nos enfants tomber dans les pièges qui nous ont laissés nous-mêmes estropiés. Pour la douceur des heures cachées que j'avais passées avec Molly, il y avait un prix à payer. À l'époque, je croyais que nous le partagions, qu'il consistait simplement à garder notre amour secret. Mais elle connaissait la vérité, j'en suis sûr, et c'est elle qui avait payé, bien plus que moi. Si Burick n'avait pas été là pour les prendre sous son aile, elle et Horty, ma fille aurait elle aussi versé son tribut. Cela pouvait d'ailleurs encore arriver à cause de ces différences, à cause des périls qu'entraîne le fait d'être l'enfant d'un coucou et de ne pas ressembler à ses frères. Parviendrai-je à mettre Heur en garde? M'écouterait-il davantage que je n'avais écouté Burick ou Vérité? Je refoulais ma colère pour lui exprimer les craintes que je nourrissais pour eux.
Heur, prête attention à ce que je dis, je t'en prie.
Aucun des moyens qui existent pour empêcher une femme de concevoir n'est certain ni sans risque. Tous représentent un danger et un prix à payer pour celles qui les utilisent. Chaque fois qu'elle couche avec toi, elle se demande sûrement si elle ne va pas tomber enceinte, si elle ne va pas déshonorer sa famille. Tu sais que je ne te jetterai jamais à la rue, pour quelque faux pas que ce soit, mais la situation de Svania est plus précaire. Tu dois la protéger, non l'exposer au péril. Tu lui demandes de miser toute sa vie pour le plaisir de ta compagnie, sans lui donner aucune garantie en retour. Que feras-tu si son père la met à la porte, ou là-bas? Que feras-tu si sa famille lui tourne le dos et que ses amis la condamnent? Comment comptes-tu t'y prendre pour assumer une telle responsabilité? Il me regardait, les sourcils froncés, l'air buté. Son côté entêté, si rarement éveillé, le dominait désormais. Il prit plusieurs respirations, chacune plus profonde que la précédente, et puis les mots jaillirent.
S'il la met à la porte, je la prendrai avec moi et je me débrouillerai pour subvenir à ses besoins. S'il la bat, je le tuerai. Et si ses amis la rejettent, c'est que ce n'étaient pas de vrais amis. Ne t'inquiète pas, Tom. C'est à moi de m'occuper de cette affaire maintenant. » Il avait prononcé ces dernières paroles en les détachant soigneusement, comme si je l'avais trahi en lui faisant part de mes craintes. Il me tourna le dos. « Je suis un homme à présent. Je suis capable de prendre seul mes décisions et de choisir ma route. Si tu veux bien m'excuser, je dois me rendre au travail. Maître Guindast attend sûrement son tour de me sermonner sur mes responsabilités.
« Heur !»
fis-je sèchement. Il s'arrêta et pivota vers moi, surpris par mon ton cassant. Par un effort de volonté, je me contraignis à terminer ce que j'avais à lui dire. Faire l'amour avec une fille ne te donne pas le statut d'homme. Vous n'avez pas le droit d'agir ainsi tant que vous n'avez pas les moyens de vous déclarer unis publiquement, ni de subvenir aux besoins de vos enfants. Il faut que tu cesses de la fréquenter, Heur, du moins de cette façon. Si tu ne vas pas très vite affronter son père face à face, jamais il ne te considérera comme un adulte. Et il s'en allait. Au beau milieu de mon discours, il m'avait tourné le dos et avait commencé de s'éloigner. Abasourdi, je le regardais se diriger vers l'atelier. Il allait certainement s'arrêter, revenir, me demander pardon, me prier de l'aider à remettre son existence sur le droit chemin. Mais non. Il pénétra dans l'atelier de Maître Guindast, sans même m'adresser un coup d'œil. Je restais sans bouger dans la neige. Je n'étais pas calme, au contraire. La colère flamboyait en moi, si brûlante qu'elle aurait pu chasser l'hiver de tout le pays, et mes poings se crispaient à mes côtés. Jamais, je crois, je n'avais été aussi furieux contre Heur, au point d'avoir envie de le rosser pour lui inculquer de force quelques notions de bon sens, s'il refusait d'écouter la voix de la raison. Je me voyais entrer comme un taureau enragé dans l'établissement pour l'en faire sortir sans ménagement et l'obliger à regarder en face la réalité de ses actes. Et puis, je fis demi-tour et m'en allais, moi aussi. Aurais-je écouté la voix de la raison à son âge? Non. Je pris conscience que je m'étais bouché les oreilles quand, à maintes reprises, Patience m'avait expliqué pourquoi je ne devais plus voir Molly. Pourtant, cela n'atténua pas mon exaspération envers Heur, ni le mépris que m'inspirait mon attitude d'adolescent. Au contraire, je sentis naître en moi un sentiment de futilité à l'idée que j'étais aujourd'hui forcé de voir mon fils adoptif commettre les mêmes erreurs égoïstes et stupides que moi autrefois. Tout comme moi, il était convaincu que leur amour, Asvania et lui, justifiaient tous les risques qu'ils prenaient, sans même songer que l'enfant qui pouvait en être aurait peut-être à payer le prix de leur intempérance. L'histoire paraissait se répéter, et j'étais incapable d'en arrêter le cours. De façon fugitive, je compris alors, me semble-t-il, la passion qui animait le fou. Il croyait en l'effrayante puissance du prophète blanc et du catalyseur qui leur permettrait de tirer l'avenir de l'ornière du présent pour l'obliger à emprunter une meilleure voie. Il était convaincu que grâce à un certain acte, nous pouvions miraculeusement empêcher que d'autres répètent les erreurs du passé. Quand, arrivé à Castelserre, je parvins en haut de l'escalier qui menait à la tour d'art, la marche avait dissipé le plus violent de ma colère. Pourtant, elle pesait toujours en moi, sourde, indigeste, empoisonnant mon esprit. Et c'est presque avec soulagement que je constatais l'absence de devoir qui avait renoncé à m'attendre. Il avait seulement ajouté à mon mot un trait pour le souligner. Il apprenait la subtilité. Peut-être réussirais-je à le détourner, lui au moins, des égarements du passé. Et puis, je me traitais de lâche devant cette pensée ignoble. Avais-je donc décidé d'abandonner Heur, de le livrer à son seul et piètre discernement? Non, certainement pas. Malheureusement, cette affirmation ne m'aidait nullement à savoir ce que je devais faire. Je descendis aux appartements de Sire Doré à temps pour partager le petit déjeuner du fou. Toutefois, je ne le trouvais pas occupé à manger, mais simplement assis à table, en train de faire tournoyer d'un air pensif un petit bouquet entre son pouce et son index. L'objet attira mon attention, car les fleurs étaient composées de dentelles blanches et de rubans noirs, ce qui me parut un subterfuge habile pour une saison sans floraison et m'évoqua l'habit de bouffon que portait mon ami jadis à pareille époque. Il vit que j'observais le bouquet et sourit de ma mine songeuse avant d'épingler soigneusement le petit ornement sur sa poitrine. Puis, Il désigna d'un ample geste les mets disposés devant lui. « Assieds-toi et restaure-toi vite. On nous attend. » Un navire est arrivé ce matin à l'aube, chargé d'une délégation d'ambassadeurs de Terrilville. Et pas n'importe quel navire. Une vive nef, avec une figure de proue qui bouge et qui parle. Je crois qu'elle s'appelle la Dune d'Or. Autant que je sache, jamais aucun de ces vaisseaux n'a poussé jusqu'aux eaux de Serre jusqu'ici. Ils transportaient un groupe d'émissaires du Conseil des marchands de Terrilville qui ont demandé audience à la reine Kétriken le plus tôt possible. La nouvelle m'étonna. D'ordinaire, les seuls contacts entre les six duchés et Terrilville restaient individuels, entre marchands et négociants, et ne mettaient jamais en présence les loin-voyants et le conseil dirigeant de la cité. Je fouillais mes souvenirs. Nous avait-elle envoyé des ambassadeurs pendant le règne de Subtil ? Je renonçais bientôt. On ne me tenait pas au courant de telles affaires quand j'étais adolescent. Je m'installai à table. « Et tu dois assister à l'entrevue ?»« Sur proposition du conseiller Imbre, nous y assisterons tous les deux. »« Pas de façon visible, naturellement. Tu dois m'y conduire par les passages secrets d'Imbre. »« C'est lui-même qui est venu m'en prévenir. » Et je dois avouer que l'idée de visiter ce labyrinthe m'émoustille au plus haut point. À part le bref aperçu que j'en ai eu la nuit où Kétriken et moi nous sommes enfuis pour échapper à Royal, je ne l'ai jamais vu. Je restais interdit. Il était inévitable que le fou connût l'existence des passages secrets, mais jamais je n'aurais imaginé qu'Imbre lui permît un jour d'y pénétrer. La reine approuve-t-elle ce plan ? Demandai-je en m'efforçant de ne pas le froisser. « Oui, mais à contre-cœur !» Puis, se dépouillant de son rôle d'aristocrate, il ajouta « Comme j'ai séjourné à Terrilville et que je dispose d'une certaine connaissance du fonctionnement de son conseil, Imbre espère parvenir à une meilleure compréhension de la situation grâce à mon analyse des propos des ambassadeurs. Quant à toi, tu lui fournis une paire d'yeux et d'oreilles supplémentaires pour saisir les nuances qui pourraient lui échapper. » Tout en parlant, il avait placé devant moi un plat en guise d'assiette. Et il nous servait avec adresse de généreuses portions de poisson fumé, de fromage mou, de pain frais et de beurre. Une tisanière pleine fumait au milieu de la table. Je me rendis dans ma chambre pour y prendre ma tasse. En revenant, je demandai « Pourquoi la reine ne t'a-t-elle pas simplement invité à l'audience ?» Il haussa les épaules en piquant un morceau de poisson avec sa fourchette, puis déclara au bout d'un moment « Ne crois-tu pas que les ambassadeurs de Terrilville trouveraient curieux que la reine des six duchés invite un noble étranger à sa première entrevue avec eux ?»« Peut-être, mais ce n'est pas certain. Il doit y avoir des dizaines d'années que le conseil de Terrilville n'a pas envoyé de délégation officielle à notre cour. En outre, nous avons une montagnarde comme souveraine aujourd'hui, une femme venue d'un royaume dont ces gens ignorent tout. » Elle pourrait les accueillir en sacrifiant des poulets devant eux, ou en répandant des roses sous leurs pas, ils n'y verraient que du feu. Quoi qu'elle fasse, ils supposeraient avoir affaire à une coutume de son pays et s'efforceraient d'y répondre courtoisement. Je bus une gorgée de tisane, puis ajoutai d'un ton sarcastique, même si elle invitait des aristocrates étrangers à leur première audience.
« Peut-être. »
Enfin, il reconnut avec réticence. « Mais j'ai des raisons personnelles. » Pour souhaiter ne pas être présent de façon visible. Par exemple, avec une lenteur intentionnelle, il coupa une bouchée de poisson dans son assiette et la mangea. Après l'avoir avalée et fait suivre d'une gorgée de tisane, il dit « Il risquerait de remarquer que je ne présente de ressemblance avec les membres d'aucune famille noble de Jamaïlia qu'ils connaissent. Les marchands de Terrilville entretiennent des liens beaucoup plus étroits avec Jamaïlia qu'aucune entreprise des six duchés. Il percerait à jour mon imposture et y mettrait fin. J'acceptais cette explication, mais j'étais quasiment sûr qu'il ne s'agissait pas là de la seule raison de sa dissimulation. Craignait-il d'être reconnu ? Je ne lui posais pas la question. Il m'avait dit avoir vécu quelque temps à Terrilville. Or, même vêtu comme un aristocrate, le fou conservait un aspect suffisamment singulier pour être identifié par qui l'avait côtoyé à l'époque. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi mal à l'aise, et je décidai de changer de sujet. Qui d'autre sera présent, de façon visible, à l'audience ? Je l'ignore. Les représentants des six duchés qui résident actuellement à la cour, j'imagine ? Il prit une nouvelle bouchée, à Macha d'un air pensif, l'avala et poursuivit. Nous verrons bien. La situation risque de se révéler délicate. Si j'ai bien compris, des messages ont été échangés, mais de manière sporadique. On attendait, il y a des mois, la délégation arrivée aujourd'hui, mais les Chalcédiens ont durci la guerre entre-temps. Ce conflit qui les oppose à Terrilville désorganise complètement les contacts maritimes avec toutes les régions au sud de Orphon. Je crois que la reine et Imbre avaient abandonné tout espoir.
Des messages ? Je n'avais aucune connaissance de ces tractations.
Terrilville a ouvert des pourparlers avec la reine et proposé une alliance pour museler Chalcède une fois pour toutes. Il lui en fait miroiter des avantages commerciaux et un rapprochement des deux royaumes. Avec raison, Kétriken a jugé qu'il n'offrait que du vent. Le libre-échange reste impossible tant que Chalcède ne cesse pas les hostilités sur les navires qui entrent dans le port de la cité et sur ceux qui en sortent. Une fois cet ennemi réduit et soumis, Terrilville sera de nouveau ouverte au commerce, que les six duchés aient ou non pris part à l'écrasement de Chalcède. Terrilville vit uniquement grâce au négoce. Seule, elle n'est même pas capable de subvenir à ses propres besoins. Par conséquent, une froide évaluation indique que les six duchés risquent d'attiser leurs désaccords déjà existants avec Chalcède sans avoir grand-chose à y gagner. Cela étant, la reine Kétriken a gracieusement refusé la demande de Terrilville d'intervenir dans le conflit. Mais aujourd'hui, les conseillers de la cité laissent entendre qu'ils ont une autre proposition à nous faire, si prodigieuse et si secrète qu'ils ont préféré nous envoyer une délégation pour nous la soumettre plutôt que la confier à un manuscrit. La ruse est adroite de jouer ainsi sur la curiosité de la reine et de ses nobles. L'attention de l'assistance est assurée. Mangeons et allons-y. D'accord ?
Nous fîmes rapidement un sort au petit déjeuner, puis j'emportai la vaisselle sale aux cuisines, où régnait la plus grande agitation. L'arrivée inattendue des visiteurs obligeait à confectionner un déjeuner exceptionnel et à préparer un banquet extraordinaire en leur honneur. Sarah elle-même, la vieille cuisinière, avait quitté son perchoir pour se mêler à la bataille culinaire en cours, en clamant haut et fort qu'elle ferait tout de ses propres mains et que ces gens de Terrilville ne pourraient jamais prétendre qu'on ne mangeait pas à sa faim dans les six duchés. Je battis précipitamment en retraite et retournai chez Sire Doré. Je trouvai la porte fermée à clé. Quand je frappai en donnant mon nom à voix basse, elle s'ouvrit. Je la franchis, la refermai derrière moi, puis restait bouche bée. Le fou se tenait devant moi. Non le fou paré en cire dorée, mais le fou tel, ou presque, que je le connaissais quand nous étions jeunes. Cette impression venait de sa tenue, composée de chausses moulantes et d'une tunique d'un noir sans reflet. Ses ornements se réduisaient aux clous d'oreilles et aux minuscules bouquets noirs et blancs. Même ses escarpins étaient noirs. Seule sa taille et la coloration de sa peau paraissaient avoir changé. Je m'attendais à demi à le voir agiter un sceptre à tête de rat sous mon nez ou à exécuter un saut périlleux. Devant mon air ahuri, il déclara avec une pointe de gêne. « Je ne souhaitais pas risquer les vêtements de cire dorée dans tes dédales poussiéreux. En outre, une tenue simple me permet de me déplacer sans bruit. » Sans répondre, j'allumai une bougie et lui en remis deux autres en réserve, puis je le conduisis dans ma chambre. J'enfermai la porte extérieure, déclenchai l'ouverture de l'accès au passage secret et pénétrai devant lui dans le labyrinthe d'Imbre. Avec retard, une question me vint. Où la reine tient-elle audience ?
Dans la salle de réception de l'Ouest. Imbre m'a chargé de te dire que le poste d'observation se situe dans la muraille extérieure.
Des indications pour m'y rendre auraient été plus utiles, mais peu importe, nous trouverons. Je péchais par optimisme. Je n'avais jamais exploré ce secteur des galeries du château. À notre grande exaspération, je découvris la salle au-dessus de celle où se déroulait l'audience, puis celle d'à côté, avant de comprendre qu'il fallait descendre de quelques étages, puis remonter par l'enceinte extérieure. Dans un tournant, le passage s'étranglait brusquement, ce qui me causa quelques difficultés, et quand nous parvîmes enfin à notre point de surveillance, nous étions l'un et l'autre décorés de toiles d'araignée des pieds à la tête. L'orifice d'observation était en fait une mince fente horizontale. Dissimulant la flamme de ma bougie derrière ma main, je soulevai le rabat de cuir, et accroupi, épaule contre épaule, nous réussîmes à coller un œil chacun à l'ouverture.
La respiration du fou me paraissait trop forte, et j'avais du mal à me concentrer pour entendre les voix indistinctes qui arrivaient jusqu'à notre cachette. Nous étions en retard et avions manqué l'accueil officiel des ambassadeurs. Je ne voyais ni Ketriken, ni Umbre. La reine occupait sans doute le trône. De voir, debout à côté d'elle et son conseiller, une marche plus bas. De notre position, nous avions vu sur toute la salle, probablement au-dessus de la tête de nos souverains. Au fond étaient assis les ducs et duchesses du royaume, ou à défaut leurs représentants à la cour. Astérie assistait à l'audience, naturellement. Nulle rencontre d'importance ne se tenait à Castelser sans la présence d'un ménestrel comme témoin. Elle portait de superbes atours, mais on lisait plus de solennité que d'intérêt sur ses traits, et je m'en étonnais. Elle paraissait pensive, voire absente. Je me demandais fugitivement ce qui pouvait ainsi la distraire. Puis je me repris et concentrai résolument mon regard et mon attention là où mon devoir le commandait. Au milieu de notre champ de vision se tenaient les quatre ambassadeurs de Terrilville. Comme on pouvait s'y attendre de la part de cette riche cité commerçante, il s'agissait de marchands et non de ducs ni de nobles. Néanmoins, la splendeur de leur vêture en faisait les égaux de n'importe quel aristocrate. Ils scintillaient de bijoux, et dans la pénombre de la salle d'audience, certaines pierres paraissaient émettre leur propre lumière. Une femme de petite taille portait une robe coupée dans un tissu si fluide et fin qu'il semblait couler sur sa silhouette comme de l'eau. Sur l'épaule d'un des hommes était perché un oiseau dont le plumage affichait toutes les nuances du rouge et de l'orange, sauf la tête, nue et à la peau fripée. Il avait un énorme bec bleu-noir. Derrière cette impressionnante délégation se tenait une seconde rangée de personnages, sans doute des serviteurs malgré leurs élégants vêtements, car on voyait entre leurs mains les coffrets et cassettes contenant les présents des ambassadeurs. Deux d'entre eux retinrent particulièrement mon regard. Tout d'abord une femme au visage couvert de tatouages exécutés sans art, équilibre, ni motif discernable. Ce n'était qu'une suite de gribouillis qui couraient sur ses joues. Cela signifiait, je le savais, qu'elle avait été esclave, et chaque marque représentait le sceau d'un propriétaire différent. Qu'avait-elle donc fait pour être achetée puis revendue tant de fois? L'autre domestique portait une capuche et un voile. Sa cape et sa coule étaient en tissu splendidement brodé d'un motif complexe, le voile devant son visage en dentelle fine et pourtant opaque. Je ne distinguais pas ses traits, et même ses mains se dissimulaient dans des gants, comme si pas un pouce de sa peau ne devait rester au jour. Mal à l'aise, je décidai de garder l'individu à l'œil. Nous étions arrivés au moment de la présentation des cadeaux. Il y en avait cinq en tout, chacun plus stupéfiant que le précédent, et ils furent offerts avec force compliments fleuris et civilité élégante, comme si l'on pouvait acheter les faveurs de notre reine à l'aide de jolies paroles flatteuses. Les discours me laissèrent donc froid, mais les présents me fascinèrent. Le premier, longue fiole de verre contenait du parfum. Comme la servante tatouée s'approchait pour le montrer à Ketriken, une femme de haute taille expliqua que l'essence apportait des rêves apaisants au dormeur le plus agité. Je n'aurais su garantir cette affirmation, mais quand on déboucha le flacon, la fragrance se répandit dans toute la salle et monta jusqu'à notre cachette. Loin d'être entêtante, elle évoquait plutôt la laine d'un jardin d'été. Pourtant, je vis se modifier l'expression des nobles au fond de la salle quand elle parvint à leurs narines. Les sourires s'élargirent et les fronts plissés se détendirent. Moi-même, je sentis ma méfiance s'atténuer. « Une drogue ?» demandai-je au fou dans un souffle. « Non, rien qu'un parfum, une odeur qui vient d'une terre moins âpre. » Un vague sourire joua sur ses lèvres. « Je l'ai connue il y a longtemps, quand j'étais enfant. On voyageait loin pour l'acheter. » Le domestique suivant s'avança et ouvrit sa cassette au pied de la reine. Il en tira un simple chapelet de clochettes, tel qu'on peut en voir dans n'importe quel jardin, hormis l'aspect des petites cloches qui paraissaient faites de verre écailleux et non de métal. Il les tint immobiles jusqu'à un signe de l'homme au perroquet. Alors, il les agita d'un frisson délicat qui les fit tinter. Chaque note était pure et douce, et leur mélange, tout d'abord désordonné, se mua bientôt en une mélodie perlée. Tout à coup, le serviteur les assourdit, beaucoup trop tôt à mon gré. Mais il leur imprima une nouvelle petite secousse et une musique chatoyante naquit aussitôt, aussi différente de la première que le crépitement d'un feu du gazouillis d'un ruisseau.
Il laissa les clochettes sonner un moment, sans que leur tintement parût faiblir le moins du monde. Enfin, ils les fitèrent à nouveau, et l'homme au perroquet déclara
« Grande reine Quétriquaine, très noble dame des montagnes et des six duchés, nous espérons que ces sons vous plaisent. Nul ne sait exactement combien de mélodies renferme ce carillon. Chaque fois qu'on le libère, c'est un air nouveau qui semble s'en échapper. Votre royaume est vaste et honorable, vos goûts sans doute raffinés, mais nous avons la présomption de croire que vous jugerez ce présent digne de vous. »
Quétriquaine dut faire un geste d'acquiescement, car on replaça le chapelet de clochettes dans sa cassette et on le lui remit. Le troisième cadeau était une pièce d'étoffe, semblable d'aspect, mais non de couleur à celle de la robe que portait la femme de petite taille. On la sortit d'un coffret sans profondeur, mais quand l'ambassadrice et l'homme au perroquet la prirent des mains du serviteur, le tissu se déplia et se déplia encore jusqu'à une surface telle qu'il eût pu recouvrir la plus longue table de la grande salle et retomber au sol. Des chatoiements le parcoururent quand ils le secouèrent, l'irisant de nuances bleutées qui allaient du violet le plus sombre à l'azur pâle du ciel. Puis, ils le replièrent sans effort et obtinrent un carré peu épais qu'ils rangèrent dans le petit coffre et déposèrent au pied de la reine. Le quatrième présent était un autre carillon aux cloches de taille différente. Leur son était agréable, mais sans plus. Leur stupéfiante particularité tenait à leur métal, qui scintillait chaque fois qu'il sonnait.
« Il s'agit de Gisdine, très gracieuse reine Quétriquaine, souveraine des six duchés et héritière du trône des montagnes, » expliqua la petite femme. « Une des raretés que l'on ne trouve qu'à Terrilleville. Vous offrir moins que la fine fleur de ce que nous possédons serait vous faire injure, et le Gisdine fait partie de nos trésors les plus précieux, tout comme ses objets. »
Elle fit signe à l'homme à la capuche qui s'avança.
« Des bijoux de feu, noble reine Quétriquaine, pierre rare, parmi les plus rares, pour une rare souveraine. »
Mes muscles se nouèrent quand l'homme voilé s'approcha de l'estrade où Quétriquaine et Devoir étaient assis. L'estomac crispé d'appréhension, je me répétais qu'Imbre se trouvait près d'eux. Le vieil assassin devait se tenir sur ses gardes, et il ne laisserait pas faire de mal à la reine ni au prince. Néanmoins, j'envoyais une minuscule pensée d'art à l'adolescent. « Ouvrez l'œil. »
« Entendu. »
Je ne pensais pas qu'il accuserait réception de mon conseil, et il émit sa réponse à tous les vents au lieu de la canaliser soigneusement. Les poils de ma nuque se hérissèrent quand je vis l'homme voilé tressaillir, comme si on lui avait donné un coup dans les côtes. L'espace d'un instant, il se figea, et je captai de lui un contact que je n'aurais su décrire.
« Chut ! » fis-je à mon prince par un filament de pensée. « Ne dites plus rien. »
J'aurais tout donné pour voir le visage de l'homme. Regardait-il de voir ? Parcourait-il la salle des yeux à ma recherche ? Quelle que fût son identité, il se maîtrisait parfaitement. Son arrêt brusque se mua en pose solennelle, puis il s'inclina profondément et présenta son cadeau. Il posa le coffret par terre devant lui, l'effleura des doigts et l'écrin parut s'ouvrir seul. Il en sortit une petite boîte qui se révéla contenir un torque d'or incrusté de pierres précieuses. Il le montra à la reine, puis le tint bien haut afin que les nobles assemblés puissent le voir eux aussi. Dans cette position, il lui imprima une légère secousse, et toutes les pierres se mirent à irradier une lueur d'un bleu surnaturel dans la pénombre. Comme il se retournait vers la souveraine pour soumettre l'ornement à son regard, j'entendis le fou à mes côtés prendre brusquement son inspiration devant la beauté de la chose. D'une voix claire, malgré le voile épais qui cachait ses traits, et jeune comme celle d'un adolescent, l'homme déclara
« Les pierres bleues sont les plus rares des bijoux de feu, très gracieuse reine. Elles ont été choisies à votre intention de la couleur emblématique du duché de Serre, et pour chaque gracieux et noble duc de chacun de vos gracieux et nobles duchés. »
Des exclamations de surprise étouffées montèrent du fond de la salle quand il tira du coffret cinq autres boîtes. Il les ouvrit l'une après l'autre pour en tirer de fins colliers d'argent et non plus d'or. Chacun n'était orné que d'une pierre, mais restait d'une splendeur à couper le souffle. Il résultait manifestement d'une étude approfondie de notre royaume, car la teinte de chaque bijou correspondait exactement à celle du duché auquel il était destiné,
au point qu'on distinguait sans mal le jaune pâle de la fleur de Béarn du jaune d'or de Bauges. Après que la reine eut accepté le sien, le serviteur encapuchonné se rendit auprès des nobles pour s'incliner gravement devant chacun et lui remettre le présent de Thérilleville. Malgré son aspect étrange, je notai que nul ne marqua d'hésitation avant de recevoir son présent. Pendant cette petite cérémonie, j'observai attentivement les émissaires de Thérilleville. « Qui est leur chef ?» murmurai-je à part moi en constatant qu'aucun ne paraissait laisser la préséance à un autre. Le fou crut que je m'adressais à lui.
« Vois-tu la femme aux yeux verts, la plus grande des deux ?»
La voix du fou était à peine plus qu'un souffle à mon oreille.
« Je crois qu'elle s'appelle Seria.
Originaire de Jamaïlia, elle était autrefois compagne du gouverneur, c'est-à-dire qu'elle faisait fonction de conseillère du souverain de tout Jamaïlia en tant que spécialiste de son domaine d'élection. Le sien était Thérilleville et les régions alentour. Elle est arrivée dans la cité dans des circonstances singulières et n'en est plus repartie. La rumeur affirme qu'elle était tombée en profonde disgrâce aux yeux du gouverneur et qu'il l'avait quasiment exilée à Thérilleville pour avoir tenté, disent certains, de s'emparer du pouvoir. Cependant, au lieu de considérer son bannissement comme une punition, elle s'est installée à Thérilleville, s'y est intégrée et s'est élevée jusqu'au statut de négociatrice professionnelle pour les marchands. Malgré sa mésentente avec le gouverneur, sa profonde connaissance de Thérilleville et de Jamaïlia donne un avantage certain à sa cité d'adoption pour traiter avec la capitale. Je le fis taire. Chut! J'aurais voulu savoir comment il était au courant de tout cela et en entendre davantage, mais cela pouvait attendre. Pour le moment, je ne devais laisser échapper aucune nuance des propos échangés dans la salle. Il obéit, mais je sentis son esprit agité. Sa joue fraîche s'appuya contre la mienne, tandis que nous reprenions notre observation par la mince fente du mur. Il posa sa main sur mon épaule pour trouver son équilibre, et je perçus dans ce contact l'attention de vives émotions contenues. Manifestement, cette rencontre revêtait pour lui une importance qui me demeurait mystérieuse, et il faudrait que je lui demande l'identité des autres ambassadeurs, mais plus tard. Toute mon attention était concentrée sur la scène qui se déroulait sous mes yeux. Je regrettais seulement de ne pas voir la reine, Imbre, ni le prince de voir. J'entendis qu'Étricaine remerciait ses visiteurs de leur présent et leur souhaitait la bienvenue. Elle s'exprimait avec simplicité. Au lieu de compliments extravagants et de phrases fleuries, elle répondit par des mots sincères et francs. Elle se réjouissait de la surprise de leur arrivée, longtemps espérée. Elle formait le vœu qu'ils passeraient un agréable séjour à Castelserre et que leur délégation annonçait de plus amples échanges entre les six duchés et Thérilleville dans un proche avenir. La femme de haute taille, Seria, l'écoutait sereinement mais avec attention. Sa compagne tatouée pinçait les lèvres, faisant à l'évidence un effort pour se taire. L'homme à ses côtés lui jeta un regard inquiet. Massif, les épaules larges, il avait le visage tanné et ses cheveux bouclés étaient coupés courts. Il était visiblement plus habitué au travail physique et aux tâches pratiques en général qu'aux méandres du protocole et de la bienséance. Tandis qu'il attendait la fin du discours de la reine, il ne cessa de serrer et de desserrer les poings sans même s'en rendre compte, et l'oiseau posé sur son épaule s'agita constamment. Le deuxième homme, personnage frêle aux allures d'intellectuel, paraissait partager le point de vue de Seria et acceptait de laisser à Kétriken le soin de fixer le rythme à la rencontre. Ce fut Seria qui répondit quand la reine se tut. Elle remercia Kétriken et les six duchés pour leur gracieux accueil, affirma que ses compagnons et elle-même se réjouiraient de l'occasion de se reposer dans notre royaume paisible, loin des horreurs de la guerre imposée par Calcède. Elle évoqua brièvement la situation de Thérilleville, les attaques inopinées sur ses navires provoquant un arrêt presque complet du commerce qui était le sang même de la cité, et les privations qui en résultaient dans une ville qui dépendait du négoce pour subvenir aux besoins de sa population. Elle parla aussi des agressions calcédiennes contre des colonies issues de Thérilleville.
J'ignorais qu'ils avaient des colonies, chuchotai-je au fou.
Il n'y en a guère, mais comme le nombre des esclaves affranchis grossit celui des habitants, on s'efforce de trouver de nouveaux territoires cultivables.
Les esclaves affranchis ?
Chut, répondit le fou.
Il avait raison. Je devais écouter et garder mes questions pour plus tard. J'appuyai mon front contre la pierre froide du mur.
Seria passait rapidement en revue les griefs de Terrilville contre Calcède. La plupart n'avaient rien d'original, et beaucoup répétaient les querelles qui opposaient les six duchés à notre avide voisin du sud. Pirates calcédiens, disputes de frontières, harcèlement et attaques de navires marchands de passage, taxes exorbitantes imposées aux négociants qui tentaient malgré tout de traiter avec Terrilville, toutes ces doléances m'étaient familières. Mais alors, la femme se lança dans la relation de la résistance de Terrilville. La cité s'était dressée contre l'influence corruptrice de Calcède pour affranchir tous les esclaves présents sur son territoire et leur donner la possibilité de devenir des citoyens de plein droit. Terrilville n'acceptait plus que les navires esclavagistes relâchent dans son port, qu'ils se rendent au nord en Calcède ou au sud à Jamaïlia. Grâce à un accord passé avec les nouveaux alliés des îles pirates, les transports de chair humaine qui mouillaient à Terrilville se faisaient arraisonner, leurs cargaisons saisirent et l'on offrait la liberté aux esclaves. Cette entrave au commerce calcédien constituait une des raisons principales du conflit, et elle avait porté sur le devant de la scène le vieux désaccord entre Terrilville et Calcède sur leurs frontières communes. Seria formait le vœu que dans ces deux domaines, les six duchés reconnaissent le bien fondé de la position de sa cité. Elle savait que le duché de Orfond accueillait les esclaves en fuite et les considérait comme des hommes libres, et aussi qu'il souffrait des opérations militaires de Calcède pour récupérer des zones occupées par le duché. Peut-être pouvait-elle espérer, dans ces circonstances, que les six duchés accorderaient ce que les précédentes délégations avaient demandé à sa très gracieuse et royale majesté Kétricaine. Une alliance et un appui dans la guerre contre Calcède. En retour, Terrilville et son allié avaient beaucoup à offrir aux six duchés. Le libre commerce avec la cité, plus une part des accords de négoce préférentiels avec les îles pirates, pourrait se révéler profitable à tous. Les cadeaux apportés par les ambassadeurs ne représentaient qu'un infime exemple de la diversité des produits qui deviendraient ainsi accessibles aux habitants des six duchés. Attentive, la reine Kétricaine écouta Seria jusqu'au bout. Mais, à la fin de son discours, l'envoyé de Terrilville n'avait proposé rien de nouveau, et ce fut Humbre, dans sa fonction de conseiller, qui en fit la remarque d'un ton grave. Les merveilles des objets et denrées dont Terrilville faisait commerce étaient renommées, et à juste titre. Toutefois, même pour de telles merveilles, les six duchés ne pouvaient envisager de prendre part au conflit. Il conclut ainsi sa réponse.
« Notre très gracieuse reine Kétricaine doit toujours, et avant tout, songer au bien-être et à la sécurité de notre peuple. Vous savez que nos relations avec Calcède restent tendues dans le meilleur des cas. Nos griefs contre ces États sont nombreux, et pourtant nous avons toujours évité de nous lancer seuls dans un conflit déclaré avec eux. Chacun connaît l'adage. Tôt ou tard, il y a la guerre avec Calcède. Ces gens ont un fond querelleur. Cependant, le choc militaire de deux pays est onéreux et néfaste pour l'économie. Il est presque toujours préférable de le repousser à plus tard. Pourquoi devrions-nous encourir le courroux de Calcède au nom de Terrilville ?
Humbre laissa quelques instants la question en suspens. Puis, il la reformula de façon encore plus brutale.
Qu'avez-vous à offrir aux six duchés que nous n'obtiendrons pas, de toute façon, quelle que soit l'issue de votre guerre ?
Au fond de la salle, plusieurs ducs hochèrent gravement la tête. C'était ainsi qu'il fallait s'adresser aux marchands. Ils ne connaissaient que les tractations et le maquignonnage. Ils attendaient d'Humbre qu'il négocie. Et il négociait.
« Très gracieuse reine, noble prince, sage conseiller, fier duc et duchesse, nous vous offrons... »
Seria s'interrompit, manifestement démontée par la franchise de la question.
« Notre offre est délicate et nécessite peut-être une réflexion en privé avant que vous ne demandiez l'accord de votre aristocratie. Il vaudrait peut-être mieux... »
Elle ne regarda pas les seigneurs assis derrière elle, mais son silence soudain en dit long.
Je vous en prie, Seria de Terrilleville, parlez ouvertement. Exposez-nous votre proposition afin que mes ducs, mes conseillers et moi-même puissions en débattre en toute connaissance de cause.
La femme écarquilla les yeux, l'air abasourdi. Qu'exigeait donc l'étiquette de Jamaïlia pour que la réponse sans détour de ma reine la prenne ainsi au dépourvu? Comme elle cherchait ces mots, l'homme au perroquet tout sauta tout à coup. Seria lui lança un regard de mise en garde, mais il s'avança tout de même.
« Très gracieuse reine, puis-je avoir l'audace de m'adresser directement à vous ?»
Ketriken eut une expression presque perplexe.
« Naturellement. Vous êtes le marchand Jorban, je crois. »
Il acquiesça solennellement de la tête.
« En effet, très gracieuse reine Ketriken, souveraine des six duchés et héritière du trône des montagnes. »
Je me sentis mal à l'aise pour ce jeune homme qui égrenait maladroitement les titres. À l'évidence, ces formules protocolaires ne lui étaient pas familières. Néanmoins, en dépit du coup d'œil furieux de Seria, il poursuivit avec détermination.
« Je crois que vous êtes quelqu'un, enfin, une reine, qui apprécie qu'on aille droit au but. J'ai supporté avec difficulté les retards qu'a connus notre voyage, mais aujourd'hui, en apprenant que vous n'éprouvez pas plus d'affection que nous pour Khalsed, j'ose espérer que vous agréerez à notre proposition dès que nous vous l'aurons soumise. »
Il s'éclaircit la gorge et se jeta à l'eau.
« Nous désirons former avec vous une alliance contre un ennemi commun. Nous sommes en guerre contre Khalsed depuis 3 ans. Cette situation nous saigne à blanc et nous avons depuis longtemps renoncé à nos illusions de voir le conflit s'achever rapidement. Les Khalsédiens sont des gens obstinés. À chaque défaite que nous leur infligeons, ils paraissent plus décidés que jamais à nous faire souffrir. La guerre est leur état naturel. Ils adorent les combats et les saccages, contrairement à nous.
Terrilleville a besoin de la paix pour prospérer, de la paix et de voies maritimes libres.
Nous dépendons du commerce. C'est non seulement notre gagne-pain, mais notre seul moyen de subsistance. Toute la magie et toutes les merveilles que nous possédons ne nourrissent pas nos enfants. Nous ne disposons pas de vastes champs où semer du grain, ni faire paître des troupeaux. Les Khalsédiens veulent nous écraser par pure avidité. Ils sont prêts à nous tuer tous pour s'emparer de nos biens, mais ils ignorent ce que leur possession nous coûte. Et, par le fait même de se l'approprier, ils détruiront ce qu'ils convoitent. Ce que nous avons ne peut nous être arraché, et pourtant, cette chose existe par elle-même, c'est...
L'homme s'interrompit par à coup, comme un navire qui s'échoue sur un banc de sable. Ketriken garda le silence, comme pour lui permettre de retrouver sa langue, mais il eut un geste d'impuissance, main écartée.
« Je suis un marchand, et un marin, madame. Très gracieuse reine. »
Il avait rajouté le titre, comme s'il lui était revenu après coup.
« C'est la nécessité qui me fait parler, mais je ne m'explique pas bien. »
« Que demandez-vous, marchand Jorban ?» Ketriken avait posé la question avec simplicité, d'un ton amène. L'espoir brilla soudain dans les yeux de l'homme, comme si cette franchise le rassurait.
« Nous savons que les gens de votre duché de Orfond s'acharnent à maintenir en place votre frontière commune avec Khalsed. Vous contenez ses assauts et votre vigilance retient une grande part de son attention. »
Il se retourna brusquement pour s'incliner devant les nobles du fond de la salle.
« Nous vous en remercions. »
Les ducs hochèrent gravement la tête en réponse, et le marchand Jorban s'adressa de nouveau à la reine.
« Mais nous devons vous demander davantage. Nous aimerions que vos navires de combat et vos guerriers harcèlent les Khalsédiens depuis votre territoire, qu'ils pourchassent et coulent les vaisseaux qui font obstacle à nos échanges avec vous. Nous souhaitons mettre un terme à ces conflits que Khalsed nous impose depuis des générations. »
Il reprit soudain son souffle.
« Nous voulons réduire ce pays et faire cesser cette discorde qui n'a que trop duré. Si ces gens ne nous tolèrent pas comme voisins, il faut qu'ils nous acceptent comme souverains. »
Serilia, la Jamaïlienne, s'interposa tout à coup.
« Marchand Jorban, vous allez trop loin. Noble et gracieuse reine Kétriken, nous venons seulement soumettre des propositions, non présenter des plans de conquête. »
Jorban crispa les mâchoires et reprit dès que Serilla se tut.
« Je ne soumets pas une proposition. Je négocie avec des alliés potentiels. Je cherche à mettre fin à la guerre incessante que nous fait Khalsed. Et je vais exposer clairement le fond de la pensée de nombreux marchands. »
Ses yeux bleus scintillèrent quand il croisa le regard de Kétriken, et il poursuivit avec franchise et passion.
« Écrasons complètement les États Khalsed et divisons-nous leur territoire. Nous avons tous à y gagner. Terrilville des terres arables et la fin des harcèlements. Le duc de Orphon la possibilité d'étendre son fief et d'avoir, non un ennemi dans son dos, mais un allié et un partenaire commercial. Le marché s'ouvrirait grand vers le sud pour les six duchés. »
Écraser Khalsed ?
Au ton de sa voix, je compris que Kétriken n'y avait jamais seulement songé. Une telle pensée allait à l'encontre de toute son éducation montagnarde. En revanche, au fond de la salle, le duc de Orphon affichait un large sourire. C'était là une opération qu'il verrait entreprise avec joie, une vengeance dont il mijotait l'envie depuis longtemps. Avec une certaine présomption, il leva le poing et déclara
« Invitons le duc de Bauges à cette répartition, et peut-être votre père, le noble roi Iod des Montagnes, aimerait-il lui aussi obtenir sa part, ma reine. Il partage comme nous une frontière avec Khalsed, pour qui, selon tous les dires, il n'a jamais manifesté de grande affection. »
« Paix, Orphon, » répliqua la reine, mais d'un ton plus aimable que je m'y serais attendu. Le duc faisait-il allusion à des événements historiques que j'ignorais ? Le royaume des montagnes avait-il eu maille à partir avec les États Khalsed au sujet de cette frontière ? Ce conflit se compliquait-il d'une rancœur plus ancienne enfouie chez Kétriken ? C'est pourtant avec réserve qu'elle répondit à la délégation de Terrilville. « Vous nous proposez une part de votre guerre comme s'il s'agissait de biens marchands que nous pourrions convoiter. Ce n'est pas le cas. Nous avons aussi connu un conflit, et nous nous efforçons, en ce moment même, de nouer des relations d'amitié avec nos ennemis de naguère. Votre guerre ne nous tente pas. Vous nous offrez des territoires de Khalsed si nous parvenons à battre ces États. C'est là une victoire bien lointaine et incertaine. En outre, tenir ces régions risquerait de représenter un fardeau plus qu'un avantage. Un peuple conquis s'accommode rarement d'une férule étrangère. Enfin, vous nous promettez le libre commerce avec le Sud si nous remportons la partie, mais Terrilville cherche depuis toujours à traiter sans entrave avec nous. Je ne vois donc nul gain dans cette promesse. Encore une fois, je vous le demande, pour quelle raison devrions-nous envisager une alliance avec vous ?
Les représentants de Terrilville échangèrent des regards, et j'eus un mince sourire. Ainsi, leur offre ne s'arrêtait pas au dépeçage et au partage du territoire khalsédien. Toutefois, il avait fallu les réduire aux abois pour les contraindre à révéler les limites de leur proposition. Leur situation ne m'inspirait nulle compassion. Ils auraient dû éviter de piquer la curiosité d'Imbre sur la profondeur de leur bourse. Le marchand Jorban fit un petit geste de la main, paume en l'air, comme pour inviter un autre à tenter de réussir là où il avait échoué. Soudain, d'un même mouvement, les délégués s'écartèrent, ouvrant entre eux un passage qui laissa l'homme au voile face à la reine. Ils avaient dû s'entendre entre eux sans avoir à parler. Je révisais en hâte mon jugement sur le personnage. Ce n'était pas un domestique, pas plus qu'aucun des autres, peut-être y compris la femme au tatouage. Il s'avança brusquement vers le trône, et je me crispai, redoutant un attentat. Mais il rejeta simplement sa capuche en arrière, ainsi que le voile qui y était fixé. Je sursautai, saisi par la vision ainsi révélée. D'autres réactions, dont celle d'Imbre, furent moins subtiles.
« Edda toute-puissante !» fit le vieil assassin,
et j'entendis dans le fond de la salle des exclamations d'horreur et d'effarement. L'ambassadeur était jeune, plus jeune que Devoir et Heure, bien qu'aussi grand. Des écailles bordaient ses yeux et sa bouche,
et ce n'était pas du maquillage. Une frange d'excroissance poilue pendait le long de sa mâchoire. Il redressa les épaules. J'avais cru que sa capuche accentuait sa taille, mais je remarquais alors la longueur anormale de ses bras et de ses jambes. Il émanait pourtant de lui une impression de grâce, et non de gaucherie. Il regarda Ketriken dans les yeux, sans se laisser intimider par sa position surélevée, et il s'adressa à elle d'une voix haute et claire d'adolescent.
« Je suis Selden Vestrit, des marchands Vestrit de Terrilville, adopté par la famille Cuprus des marchands du désert des pluies. »
La deuxième partie de sa présentation me laissa perplexe. Nul n'habitait dans le désert des pluies. Seuls des marais, des fondrières et des bourbiers bordaient le fleuve. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la frontière qui séparait Kalced de Terrilville n'avait jamais été nettement tracée. Le fleuve et ses alentours marécageux interdisaient tout relevé précis d'un côté comme de l'autre. Cependant, ce que le jeune homme déclara ensuite était encore plus échevelé.
« Vous avez entendu Serilia, qui parle pour le conseil de Terrilville. Mes autres compagnons s'expriment au nom des tatoués, anciens esclaves et nouveaux citoyens de Terrilville, des marchands de Terrilville et de nos vives nefs. Pour ma part, je représente les marchands du désert des pluies, mais aussi Tintaglia, le dernier vrai dragon, qui a prêté serment de secourir Terrilville en cas de nécessité. Ce sont ces paroles que je porte. »
Un frisson me parcourut à l'énoncé du nom du dragon, mais j'ignorais pourquoi.
Tintaglia est las des attaques constantes de Kalced contre ses congénères de Terrilville. Cela distrait leur attention et les détourne d'une entreprise de grande envergure à laquelle elle veut les atteler. Cette guerre que Kalced s'acharne à poursuivre met en péril une destinée d'une toute autre dimension.
Il s'exprimait comme s'il n'appartenait pas à la race des hommes, avec un dédain qui réduisait à rien nos petites querelles humaines. Je m'en sentais à la fois glacé et exalté. Il parcourut l'assistance du regard, et je me rendis compte que la lueur bleutée que j'avais cru remarquer dans ses yeux était bien réelle.
« Aidez Terrilville à détruire Kalced et à mettre un terme à ce conflit. » Et Tintaglia étendra sa faveur jusqu'à vous. Et non seulement la sienne, mais celle de ses enfants, qui grandissent rapidement en taille, en beauté et en sagesse. Aidez-nous et, un jour, les légendes des dragons qui surgissent pour protéger les six duchés laisseront la place à la réalité d'un dragon allié. »
Un silence stupéfait suivit ces mots. Les délégués de Terrilville durent se méprendre sur son sens, car le marchand Jorban eut un sourire impudent devant l'expression sans doute confondue de Ketriken, et ajouta effrontément
« Je ne vous reprocherai pas de ne pas nous croire, mais Tintaglia existe bel et bien, tout autant que moi. Si son devoir ne lui dictait pas de s'occuper d'abord de ses enfants, il y a des années qu'elle aurait mis fin aux attaques contre nous. » N'avez-vous pas eu vent de la bataille de la baie des marchands, où un dragon de Terrilville, bleu et argent, a chassé les Kalcédiens de notre côte? J'y étais, moi, et je combattais pour libérer notre port. Cette histoire n'est ni une exagération outrancière, ni un conte à dormir debout, mais la simple vérité. Terrilville dispose d'un allié rare et merveilleux, le dernier véritable dragon du monde. Aidez-nous à soumettre Kalced, et il pourra devenir le vôtre aussi.
Il ne se doutait pas, je pense, que ses propos déclencheraient la colère de Ketriken. Il ne pouvait pas savoir à quel point le sujet des dragons des six duchés était sensible pour nous.
« Le dernier véritable dragon !»
s'exclama-t-elle. J'entendis le bruissement de sa robe quand elle se dressa d'un bond, et descendant les degrés de l'estrade pour faire face aux effrontés de Terrilville, elle s'arrêta une marche au-dessus d'eux. Le courroux rendait grinçante la douce voix de mon aimable et raisonnable reine qui emplit soudain la salle.
« Comment osez-vous parler ainsi? Comment osez-vous traiter les anciens de simples légendes? J'ai vu le ciel scintiller des feux, non pas d'un seul, mais d'une multitude de dragons qui volaient au secours des six duchés. J'en ai monté un moi-même, le plus fidèle de tous, qui m'a ramené au château de Castelserre. Il n'y a pas dans cette salle une personne d'âge adulte qui n'ait assisté à la déroute des pirates rouges qui nous tourmentaient depuis des années quand ils ont étendu leurs vastes ailes au-dessus de nos eaux. Insinueriez-vous que nos dragons seraient faux, de cœur ou d'action ? Ce garçon peut plaider la jeunesse et l'inexpérience. Il n'était sans doute pas né lors de notre guerre, et il connaît mal les manières propres à manifester le respect dû à ces créatures. Vous, ses compagnons, en revanche, ne pouvez plaider que votre ignorance de notre histoire. Le dernier véritable dragon.
Je crois qu'aucune insulte personnelle n'aurait provoqué une réaction aussi indignée de la part de notre souveraine. Les visiteurs ne pouvaient pas savoir que c'était l'honneur de son roi, Vérité, son unique amour qu'elle défendait. Même certains de nos nobles paraissaient surpris de voir leur reine, habituellement si placide, remettre à sa place un ambassadeur étranger avec une telle brutalité. Toutefois, leur étonnement n'impliquait pas qu'ils fussent en désaccord avec elle. Des hochements de tête ponctuèrent ses paroles, plusieurs ducs et duchesses se dressèrent, et la représentante de Béarn porta la main à son épée. L'adolescent au visage écailleux jeta des regards effarés autour de lui, la bouche entr'ouverte, et Serilla leva les yeux au ciel. Les envoyés de Terrilville se resserrèrent instinctivement en un groupe plus compact. Le garçon s'avança vers la reine. Avant qu'Imbre pût achever son geste pour lui interdire d'approcher davantage, il mit un genou en terre et déclara en regardant Kétriken.
Je vous implore de me pardonner si je vous ai offensé. Je dis seulement ce que je sais. Comme vous l'avez remarqué, je suis jeune, mais c'est Intaglia elle-même qui nous a révélé, avec grande tristesse, qu'elle est le dernier véritable dragon du monde. S'il en est autrement, je me réjouirais de lui rapporter la nouvelle. Je vous en prie, permettez-moi de voir vos dragons, de leur parler. Je leur expliquerai sa détresse.
Kétriken avait encore le souffle court de sa sortie. Sa respiration se calma enfin, et redevenue elle-même, elle répondit « Je ne vous garde pas rancune d'avoir parlé de ce que vous ignoriez. Quant à vous adresser à nos dragons, c'est hors de question. Ce sont les dragons des Six-Duchés, réservés aux Six-Duchés. Vous outrecuidez, messire, mais vous êtes jeune, et je vous pardonne. » L'adolescent ne bougea pas et continua de regarder notre reine d'un air indécis, certes, mais nullement mortifié. C'était à Imbre d'intervenir pour apaiser la tension. Il s'avança face à la délégation de Terrilville.
Il est peut-être naturel que vous mettiez en doute la parole de notre souveraine, comme nous la vôtre. Le dernier véritable dragon, dites-vous. Mais, dans le même souffle, vous parlez de ses enfants, et cela me laisse perplexe. Pourquoi ne considérez-vous pas ces rejetons comme de véritables dragons? Si cette créature existe, pourquoi ne vous a-t-elle pas accompagné pour se montrer à nous et peser sur notre décision de nous allier à vous?
Son regard vert et dur balaya les ambassadeurs.
Mes amis, votre proposition présente des aspects très étranges. Vous ne nous révélez pas tout, et vous jugez sans doute excellent les motifs qui vous y poussent. Cependant, à dissimuler vos secrets, vous risquez de perdre non seulement une alliance, mais aussi notre respect. Pesez bien le pour et le contre.
Je ne voyais que son dos, mais je sus qu'il se tenait le menton d'un air songeur. Il se retourna un instant vers la reine. J'ignore ce qu'il lut sur ses traits, mais il prit sa décision.
« Mesdames et messeigneurs, je suggère que nous ajournions cette audience afin de laisser à notre noble et gracieuse reine le temps de débattre de votre proposition avec ses ducs et duchesses. Des appartements vous ont été préparés. Profitez de notre hospitalité. »
J'entendis le petit sourire qui perça dans sa voix quand il ajouta
« Les ménestrels que nous mettons à votre service se feront un plaisir de vous éclairer en chanson ou en récit sur les dragons des Six-Duchés. À notre prochaine rencontre, peut-être les balades et le repos auront-ils calmé les esprits de tous. »
Devant un congédiement aussi ferme, Les délégués de Terrilleville ne purent que se retirer. La reine et le prince devinrent sortir ensuite, et Humbre demeura en compagnie des nobles, apparemment pour décider d'un rendez-vous afin de discuter de l'offre des émissaires. Le duc de Orphon allait et venait à grands pas, visiblement surexcité, tandis que la duchesse de Béarn se tenait immobile, grande et silencieuse, les bras croisés comme pour manifester son total désintérêt. Je m'écartai du trou d'observation et laissai retomber le rabat de cuir. « Allons-nous-en, » dis-je tout bas au fou, et il acquiesça de la tête. Je repris notre bougie et nous nous remîmes en route dans les étroites galeries à rats qui couraient dans les murs de Castelserre. Au lieu de ramener directement le fou à ma chambre, je fis un crochet par la vieille salle d'Humbre. À peine entré, il s'arrêta, ferma les yeux un instant, puis inspira profondément. « Ça n'a pas tellement changé depuis la dernière fois que je suis venu, » dit-il d'une voix étranglée. Je me servis de ma bougie pour allumer celle de la table, puis je déposai une bûche sur les braises de l'âtre. « Je suppose qu'Humbre t'a conduit ici la nuit où le roi subtil a été assassiné. » Il hocha lentement la tête. Je le connaissais. J'avais bavardé un peu avec lui de temps en temps. Notre première rencontre avait eu lieu peu après mon entrée au service du roi subtil. Humbre se présentait chez lui de nuit pour parler avec lui. Parfois, ils jouaient au dé ensemble. Le savais-tu? Mais, en général, ils s'asseyaient près de la cheminée et discutaient de tel ou tel danger qui menaçait le royaume en buvant de l'eau-de-vie de la meilleure qualité. C'est ainsi que j'ai appris ton existence, lors d'une de leurs conversations au coin du feu. Quand j'ai mesuré la portée de leurs propos, mon cœur s'est mis à cogner si fort dans ma poitrine que j'ai cru m'évanouir. Eux, en revanche, avaient à peine remarqué que je les écoutais. Ils me prenaient pour un enfant, peut-être un peu simple, et en me présentant, j'avais pris soin de manifester une maîtrise imparfaite de votre langue. Il secoua la tête. Ça a été une étrange période de ma vie. J'en percevais l'importance, je voyais les augures qui la dominaient, et pourtant, grâce à la protection du roi subtil, c'est à ce moment-là que j'ai connu ce qui se rapproche le plus d'une véritable enfance. Je sortis deux verres et la bouteille d'eau-de-vie entamée d'Humbre. Je les posai sur la table, puis nous servis. Le fou leva les sourcils. « Si tôt le matin ?» Je haussai les épaules. J'ai peut-être l'impression que la journée est bien avancée. Pour moi, elle a commencé il y a déjà longtemps, en compagnie de Heure. Je me laissai tomber dans un fauteuil, le cœur alourdi par le souci que me causait mon fils. Fou, t'arrive-t-il d'avoir envie de pouvoir revenir en arrière pour modifier tes actions? Il s'assit à son tour, mais ne toucha pas à son verre. Oui, comme tout le monde. C'est un jeu stupide auquel nous aimons jouer. Qu'est-ce qui te pèse, Fitz? Alors, je m'épanchai comme un enfant. Je lui dis mes craintes et mes déceptions, comme s'il avait la capacité de les ordonner, de leur trouver un sens. Quand je revois ma vie, fou, j'ai parfois le sentiment que c'est dans les moments où je me sentais le plus sûr de moi que j'ai commis mes erreurs les plus graves. Par exemple, quand j'ai pourchassé Justin et Sereine dans tout le château pour les tuer devant les ducs assemblés parce qu'ils venaient d'assassiner mon roi. Songe à ce qui s'ensuivit pour nous tous, à la cascade d'événements que cela a provoqué. Il acquiesça de la tête. Et ? Fit-il pour me relancer, alors que je me versais une nouvelle rasade d'alcool. Je vidai mon verre d'un trait et me jetai à l'eau. Et couché avec Molly, dis-je. Je soupirais sans me sentir mieux. Cela me semblait parfaitement naturel. C'était des moments doux, sincères, précieux. C'était le seul domaine de ma vie qui n'appartenait qu'à moi. Mais si je ne l'avais pas fait ? Il attendit que je poursuive. Si je ne l'avais pas fait, si je ne l'avais pas mise enceinte, elle n'aurait pas quitté Castelserre pour cacher son état. Même quand j'ai commis l'autre erreur que j'ai mentionnée, elle aurait pu subvenir seule à ses besoins. Burick ne se serait pas senti obligé de l'accompagner, de la protéger jusqu'à l'accouchement. Il ne serait pas tombé amoureux, il ne se serait pas marié. Quand, après les dragons, j'aurais pu retourner auprès d'elle. J'aurais une vie à moi aujourd'hui. Je ne pleurais pas, Cette douleur avait perduré bien au-delà des larmes. La seule nouveauté, c'est que j'en reconnaissais l'existence. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, tout est de ma faute. Le fou se pencha sur la table pour poser sa longue main fraîche sur la mienne. « Je te l'ai dit, c'est un jeu stupide, Fitz, » murmura-t-il. « Et puis, tu t'attribues trop de pouvoir, et trop peu à la force des événements. À Molly aussi. Si tu pouvais remonter le temps et gommer ces décisions, qui sait lesquelles prendraient leur place ? Lâche prise, Fitz. Laisse aller. L'attitude de Heur n'est pas une sanction de tes actes passés. Ce n'est pas toi qui l'as obligé à faire ce choix. Mais cela ne te dispense pas de ton devoir de père, qui est de tenter de le détourner de cette voie. Crois-tu que, parce que tu as pris la même décision que lui autrefois, tu n'as pas le droit de lui dire que c'était une erreur ? Il s'interrompit un instant, puis demanda « As-tu déjà songé à lui apprendre la vérité sur Molly et Horty ?»« Non, je ne peux pas. »« Oh, Fitz, c'est secret, tout ce qu'on ne dit pas. » Sa voix mourut sur une note attristée. « Comme les dragons de Terrilville » fis-je d'un ton uni. Il ôta sa main de la mienne.
« Comment ?»
Un soir, nous avons bu, et tu m'as raconté une histoire où il était question de serpents qui s'enfermaient dans des cocons de papillons et en ressortaient sous forme de dragons. Mais, pour une raison que j'ignore, il restait petit et chétif. Tu avais l'air de t'en sentir fautif. Il se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Son teint doré avait pris une nuance cireuse.
Nous avions bu, beaucoup bu.
En effet, tu étais assez saoul pour t'ouvrir à moi, et j'avais encore la tête assez claire pour t'écouter. J'attendis sa réponse, mais il me regarda sans rien dire. « Eh bien, » fis-je enfin,
« que désires-tu savoir ? »
demanda-t-il à voix basse. « Parle-moi des dragons de Terrilville. Existe-t-il vraiment ?» À son expression, je vis qu'il prenait une décision. Quand ce fut fait, il se redressa sur son siège, remplit nos verres d'eau-de-vie et but une gorgée du sien.
Oui, ils sont aussi réels que ceux des Siduchés, mais différemment.
Comment cela ? Il soupira.
Il y a bien longtemps, nous avons eu une âpre discussion à ce sujet. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je soutenais qu'à une époque, il avait dû exister de vrais dragons de chair et de sang, et que les clans d'art s'en étaient inspirés pour créer des dragons de pierre et de mémoire.
Ça remonte à des années. Je me rappelle à peine cette conversation.
C'est inutile. Sache seulement que j'avais raison.
Un sourire voleta sur ses lèvres.
Il fut un temps, Fitz, où il y avait de vrais dragons, ceux qui ont inspiré les anciens.
Non. Les dragons, c'étaient les anciens, répliquai-je. Il sourit.
Tu as raison, Fitz, mais pas au sens où tu l'entends. Du moins, je crois. J'en suis encore à essayer d'assembler les morceaux du miroir. Les créatures que nous avons tirées du sommeil, les dragons des Siduchés, c'étaient bel et bien des créations, des objets sculptés par des clans ou des anciens. La pierre de mémoire avait pris les formes qu'on lui avait données et s'était éveillée à la vie sous l'aspect de dragons, de sangliers volants, de cerfs ailés ou d'une fille sur un dragon.
Il emboîtait les pièces un peu trop vite pour moi. Je hochai néanmoins la tête. Continue.
Pourquoi les anciens ont-ils créé ces dragons de pierre et y ont-ils conservé leur esprit et leur vie? Parce qu'ils se sont inspirés de véritables dragons, d'êtres qui, à l'instar des papillons, traversaient deux étapes au cours de leur existence. Ils éclosaient sous forme de serpents de mer et sillonnaient les océans où ils atteignaient d'énormes proportions. Quand le temps était venu, quand, au bout d'un certain nombre d'années, ils étaient parvenus aux dimensions d'un dragon, ils migraient jusqu'au territoire de leurs ancêtres. Là, jadis, les adultes les accueillaient et les escortaient pendant qu'ils remontaient les fleuves jusqu'en un lieu où ils se tissaient un cocon en mélangeant du sable, constitué de pierres de mémoire broyées, et leur propre salive. Les dragons adultes les aidaient dans cette tâche et leur salive contenait leurs souvenirs qui participaient à la formation des jeunes dragons.
Un hiver tout entier, ils se transformaient en dormants sous la surveillance de leurs aînés qui les protégeaient des prédateurs, et, sous le soleil brûlant de l'été, ils éclosaient en absorbant la plus grande partie de leur cocon et les souvenirs qu'ils renfermaient. De jeunes dragons apparaissaient alors, parfaitement achevés, forts, aptes à se défendre seuls, à chasser, à se battre pour s'accoupler et, ultérieurement, à pondre des œufs sur une île lointaine, l'île des autres, des œufs qui donnaient de nouveaux serpents. J'avais l'impression de voir ce qu'ils décrivaient, peut-être à cause de mes rêves. Combien de fois dans mon sommeil m'étais-je imaginé à la place de vérité, en train de voler dans le ciel pour chasser et me nourrir? Les paroles du fou faisaient écho à ces songes qui me semblaient tout à coup de véritables souvenirs et non plus des chimères de mon invention. Il s'était tu. « Dis-moi la suite, » fis-je d'un ton suppliant. Il se radossa en soupirant.
« Ils ont disparu il y a bien longtemps. J'ignore exactement de quelle façon. » À cause d'un grand cataclysme qui a enseveli des cités entières en l'espace de quelques jours, peut-être. Les côtes se sont enfoncées, les villes portuaires ont été englouties et le cours des fleuves modifié. Les dragons ont été effacés de la surface du monde, et les anciens aussi, je pense. Ce n'est qu'une hypothèse, Fitz, que je fonde non seulement sur ce que j'ai vu et entendu, mais aussi sur ce que tu m'as raconté et ce que j'ai lu dans tes mémoires. La cité déserte, fendue par une immense fracture, la vision que tu y as eue d'un dragon qui se posait au bord du fleuve et la description des habitants bizarrement conformés qui l'accueillaient. À une époque, ces gens et les dragons vivaient côte à côte. Quand s'est produit le désastre qui les a tous tués, ils ont tenté de sauver quelques cocons. Ils ont voulu les placer à l'abri dans leur bâtiment, et tous ont fini enterrés vivants. Les gens sont morts, mais dans les cocons, loin de la lumière et de la chaleur qui sont le signal de l'éclosion, les dragons à demi achevés ont survécu. Pendu à ses lèvres comme un enfant, j'écoutais son incroyable histoire. Des gens d'un autre peuple ont fini par les découvrir. Les marchands du désert des pluies, issus des marchands de Terrilville, ont fouillé dans les anciennes cités ensevelies en quête de trésors, et ils en ont trouvé beaucoup. La plupart des cadeaux que tu as vus aujourd'hui offerts à Ketriken, les bijoux de feu, le gisdine, même le tissu, proviennent de ces sites où ont vécu les anciens. Les chercheurs ont aussi découvert les cocons des dragons. Ils ignoraient de quoi il s'agissait, naturellement, ils ont cru, mais qui peut savoir ce qu'ils ont cru d'abord? Les cocons l'auront peut-être évoqué des sections de gigantesques troncs d'arbres, car ils ont donné à cette matière le nom de bois sorcier. Ils les ont découpés et ont employé les cocons comme matériaux de construction, en jetant au rebut les dragons inachevés qu'ils abritaient. C'est de cette substance qu'ils fabriquent leur vive nef, et ces étranges navires puisent la vie dont ils sont animés dans les dragons qu'ils auraient dû devenir. Je pense que la majorité des embryons étaient morts depuis longtemps quand on a tronçonné leur cocon. Mais l'un d'eux, au moins, était vivant, et par un enchaînement d'événements dont je ne sais pas tout, son cocon s'est trouvé exposé à la lumière du soleil. Il a éclos, et Tintaglia est né.
Chétive et mal formée. Je m'efforçais de faire le lien entre cette dernière partie de son récit et ce qu'il m'avait appris précédemment.
Pas du tout. Saine, bien portante, et bouffie d'une morgue sans limite. Elle est partie à la recherche d'autres de son espèce. Elle a fini par renoncer à trouver des dragons, mais elle a découvert des serpents. Ils étaient très vieux et immenses, car, et là encore c'est une spéculation, Fitz, le cataclysme, quelle qu'eût été sa nature, qui avait anéanti les dragons adultes, avait aussi modifié la géographie du monde à tel point que les serpents étaient incapables de retourner sur leur site d'encoconnage. Pendant des dizaines, voire des centaines d'années, ils avaient essayé périodiquement d'emprunter le chemin du retour, avec pour seul résultat la mort de nombre d'entre eux. Mais aujourd'hui, avec Tintaglia pour les guider et les habitants de Terrilville pour curer les fleuves afin de leur ouvrir le passage, certains serpents ont survécu à la migration, et en plein hiver, ils ont fabriqué leur cocon. Ils étaient vieux, affaiblis, mal portants,
Et ils n'avaient qu'un seul dragon pour les conduire et les aider à créer leur coque protectrice. Beaucoup ont péri en remontant le fleuve. D'autres ont sombré dans le sommeil, dans leur cocon pour ne jamais se réveiller. Et, à l'arrivée de l'été, ceux qui ont éclos, à la chaleur du soleil, étaient des avortons. Peut-être les serpents étaient-ils trop âgés, ou bien ont-ils passé trop peu de temps dans leur chrysalide, ou encore n'étaient-ils pas en assez bonne santé quand ils ont entamé leur transformation. En tout cas, ce sont des créatures pitoyables, incapables de voler ou de chasser, qui rendent Tintaglia folle de rage. Chez les dragons, on méprise la faiblesse, et ceux qui ne sont pas assez forts pour survivre sont condamnés. Mais si elle laisse mourir cette génération, elle se retrouvera complètement seule, à jamais, dernière de son espèce, sans espoir de la ressusciter un jour. Aussi passe-t-elle tout son temps et toute son énergie à chasser et à rapporter des proies. Elle est convaincue qu'en leur donnant assez à manger, elle parviendra à faire de ces chétives créatures des dragons dignes de ce nom. Et elle souhaite, non, elle exige que les marchands du désert des pluies l'aident dans cette entreprise. Mais ils ont eux aussi des enfants à nourrir, et la guerre fait obstacle à leur commerce. En résumé, tout le monde se bat sur tous les fronts. Telle était la situation le long du fleuve du désert des pluies la dernière fois que j'y suis passé, il y a 2 ans, et apparemment, elle n'a pas changé. Je restai un moment silencieux, m'efforçant de trouver une niche convenable dans mon esprit à son récit extraordinaire. Je ne pouvais douter de ses paroles. Au cours des années, il m'avait raconté bien d'autres histoires étranges qui s'étaient révélées vraies. Mais le croire m'obligeait aussi à réévaluer l'importance et la signification de nombre de mes propres expériences. J'essayais de songer uniquement à l'impact de ce qu'il décrivait sur Terrilville et les six duchés. Humbre et Ketriken sont-ils au courant de ce que tu m'as appris ? Il secoua lentement la tête. Non, pas de mon fait, en tout cas. Humbre dispose peut-être d'autres sources, mais je ne lui ai jamais rien dit. Eda et elle, mais pourquoi donc? Il négocie avec les ambassadeurs en aveugle, fou. Une pensée encore plus effrayante me vint. As-tu parlé aux marchands de nos dragons? Connaissent-ils la véritable nature des dragons des six duchés? Il secoua de nouveau la tête. Eda, merci. Mais pourquoi n'avoir rien dit à Ambre? Pourquoi n'en avoir parlé à personne? Il me dévisagea si longtemps en silence que je finis par croire qu'il ne répondrait pas. Il déclara enfin avec réticence « Je suis le prophète blanc. Mon but dans cette vie consiste à engager le monde sur une voie meilleure. Cependant, je ne suis pas le catalyseur, celui qui opère les changements. C'est ton rôle, Fitz. Révéler à Imbre ce que je sais modifierait à coup sûr l'orientation des tractations avec les Terrilviliens. Mais j'ignore si cela contribuerait à ma mission ou la contrarierait. En cet instant, je doute plus que jamais du chemin que je dois emprunter. » Il se tut et me regarda comme s'il espérait de ma part une remarque utile. Je n'en trouvais pas. Le silence s'éternisa entre nous. Enfin, le fou croisa ses doigts sur ses genoux, les yeux baissés. « Je me demande si je n'ai pas commis une erreur à Terrilville. En outre, je crains, au cours des années que j'ai passées là-bas et ailleurs, de n'avoir pas accompli convenablement mon destin. J'ai peur de m'être trompé et d'avoir par avance faussé tous mes actes présents. » Il soupira tout à coup. « Fitz, je progresse dans le temps en me fiant à ce que je ressens, non un pas après l'autre, mais d'instant en instant. Qu'est-ce qui me paraît le plus juste ? Jusqu'à maintenant, il ne me semblait pas que je dusse faire part à Imbre de ses renseignements. Je les lui ai donc tus. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il était temps de te les apprendre, et je l'ai fait. J'ai transféré sur toi la décision, celle d'en parler à Imbre ou non, changeur. C'est à toi de choisir. » J'éprouvais une curieuse sensation, comme un coup d'aiguillon à entendre le nom que me donnait Œil de Nuit prononcé tout haut par une voix humaine. « C'est ainsi que tu procèdes quand tu dois prendre parti ? Tu te fies à ce que tu ressens.
J'avais parlé d'un ton plus acerbe que je ne le voulais, mais le fou ne s'y a pas. Il me regarda dans les yeux et demanda « Et comment pourrais-je m'y prendre autrement ?»« En te servant de tes connaissances, de signes, d'augures, de rêves prémonitoires, de tes propres prophéties, je ne sais pas, moi, mais pas simplement de ce que tu ressens. Sacré nom d'elfou, ça pourrait être le poisson du déjeuner qui ne passe pas tout bêtement. » J'enfouis mon visage dans mes mains et réfléchis. Il s'en était remis à moi. Qu'allais-je faire? Le choix me paraissait brusquement plus délicat que lorsque j'avais reproché au fou de s'être tué. Une fois qu'il serait au courant, quelle attitude humble adopterait-il à l'égard de Terrilville et d'une éventuelle alliance? De vrais dragons. La faveur d'un vrai dragon valait-elle la peine qu'on s'engage dans une guerre? Dans quelle situation nous retrouverions-nous si nous refusions de soutenir Terrilville? Que la cité marchande sorte victorieuse du conflit et qu'elle finisse par disposer d'une phalange de dragons à ses ordres? Et si j'avertissais plutôt Kétriken? Les mêmes questions se poseraient, mais les réponses seraient certainement très différentes. Je poussai un brusque soupir. Pourquoi m'avoir confié cette décision? Je sentis la main du fou sur mon épaule, et quand je levai les yeux, je vis son étrange demi-sourire. « Parce que tu t'en es toujours bien débrouillé, chaque fois que j'ai agi ainsi, depuis le jour où je me suis mis en quête d'un jeune garçon dans les jardins, et que je lui ai dit
« Fils, débouche la bouche du bichon, du beurre et sa biche !»
Je le regardais, ahuri. « Mais tu avais prétendu avoir fait un rêve et vouloir m'en prévenir. » Il eut un sourire énigmatique. « J'avais fait un rêve, c'est vrai, et je l'avais noté. J'avais 8 ans alors. Quand j'ai senti que l'heure était venue, je t'en ai fait part, et malgré ton jeune âge, tu as su quoi en faire. Tu as su jouer ton rôle de catalyseur. Tu t'en tireras aussi bien aujourd'hui, j'en suis sûr. » Il se rassit. J'ignorais la portée de mes actes et de leurs conséquences alors. « Et aujourd'hui, que tu en as conscience ?»« Je le regrette. Les décisions n'en sont que plus difficiles à prendre. » Il s'adossa dans son fauteuil avec un sourire supérieur. « Tu vois ?» Il se pencha soudain vers moi. « Comment as-tu déterminé ta façon d'agir à l'époque dans le jardin, ce que tu allais faire ?» Je secouai lentement la tête. « Je n'ai rien déterminé. Il y avait... une ligne de conduite toute tracée, et je l'ai suivie. Si j'ai opéré un choix, il se fondait sur ce que je considérais comme l'intérêt des six duchés. Je n'ai pas réfléchi plus loin. Je tournai la tête un instant, avant que le casier à vin pivote et révèle le passage secret qu'il dissimulait. Humbre en sortit. Il paraissait à bout de souffle et aux abois. Son regard tomba sur la bouteille d'eau-de-vie. Sans un mot, il s'approcha de la table, s'empara de mon verre et le vida d'un trait. Alors il poussa un soupir et dit
« Je pensais bien vous trouver cachés ici tous les deux. »
« Cachés ? Non, » rétorquai-je. « Nous discutions tranquillement à l'abri des oreilles indiscrètes. Rien de plus. » Je lui cédai mon fauteuil et il s'y laissa tomber avec soulagement. Manifestement, il avait grimpé 4 à 4 les marches qui menaient à sa tour.
« J'aimerais que cette audience avec les marchands de Terrilville fût restée aussi secrète. » Les bavardages vont déjà bon train et la marmite commence à bouillir.
Sur les avantages et les inconvénients d'une alliance avec eux et d'un engagement dans la guerre qui les oppose à Khalsed, j'imagine. Non, ne me dites rien, laissez-moi deviner. Orphon se déclare prêt à envoyer ses navires de combat dès demain, n'est-ce pas?
Orphon, je pourrais m'en débrouiller, répondit Humbre d'un ton irrité. Non, c'est plus compliqué que cela. À peine Kétriken avait-elle regagné ses appartements, et avions-nous commencé à examiner entre nous ce que Terrilville nous demande et nous offre en réalité qu'un page a frappé à la porte. Péotr, Onde Noire et la Narcheska exigeaient de nous voir sur le champ. C'était un ordre, pas une requête. Il se tut pour nous laisser le temps de digérer ce détail. Le ton du message était des plus urgents. Nous n'avons pu qu'accepter. La reine craignait que la Narcheska ne se fût offensée à nouveau d'une parole ou d'une attitude malheureuse de devoir. Mais quand on les a introduits dans la salle d'audience privée, Piotr a déclaré que la Narcheska et lui s'affligeaient fort de voir les six duchés recevoir des ambassadeurs des marchands de Terrilville. Ils paraissaient tous deux extrêmement troublés.
Mais le plus intéressant a été la promesse claire et nette de Piotr d'annuler les fiançailles si les six duchés formaient une alliance avec ces « éleveurs de dragons », pour reprendre son expression.
Ce sont Piotr Ronde Noire et la Narcheska qui vous ont tenu ces propos, par Conne sans grépé ? Demandai-je afin d'être sûr d'avoir une idée précise de la situation. Au même instant, le fou s'exclama d'un ton d'intense intérêt.
« Des éleveurs de dragons ? Ronde Noire les a traités d'éleveurs de dragons ?»
Imbre nous regarda tour à tour.
« Sans grépé n'était pas présent, » dit-il en réponse à ma question.
Puis il poursuivit en s'adressant au fou.
« En réalité, c'est la Narcheska qui a employé cette expression. »
« Comment a réagi la reine ? » fis-je. Imbre poussa un long soupir.
« J'espérais qu'elle leur expliquerait que nous avions besoin de temps pour débattre du sujet, mais à l'évidence, l'humiliation que son fils avait subie la veille l'avait agacée plus que je ne le croyais. J'oublie parfois qu'elle est mère autant que souveraine. » Elle a riposté d'un ton sec que les accords entre les marchands de Terrilleville et les six duchés seraient soumis aux intérêts de notre royaume et non aux menaces de quiconque.
Et ensuite ?
Ensuite, ils sont ressortis. La Narcheska marchait droite comme un i, apparemment très en colère. Ronde Noire allait le dos voûté comme un homme chargé d'un lourd fardeau.
Leur retour pour les îles d'outre-mer est prévu pour très bientôt, n'est-ce pas ? Imbre acquiesça de la tête, l'air chagrin.
Oui, dans quelques jours. Les événements se conjuguent pour tout laisser en suspens. Si la reine ne fournit pas rapidement une réponse aux Terrilleviliens, la question de la solidité des fiançailles restera posée lorsque la Narcheska repartira. Tout ce travail pour renouer des relations à la trappe, ou pire. Cependant, je pense qu'il ne faut pas donner notre verdict aux marchands de Terrilleville dans la précipitation. Leur proposition doit faire l'objet d'une étude minutieuse. Cette histoire de dragon, s'agit-il d'une tentative d'intimidation, d'une manière de se moquer de nos dragons, d'un vatou, d'une offre aussi vide qu'une baudruche, qu'ils nous font parce qu'ils sont à la dernière extrémité? Il faut que je débrouille tout cela, que je dépêche des espions et que j'achète des renseignements. Nous ne pouvons pas donner de réponse tant que nous ne disposons pas de faits vérifiés. »
Le fou et moi échangeâmes un regard.
« Quoi ? Qu'y a-t-il ? »
demanda Imbre d'une voix tendue. Je pris mon courage à deux mains et jetai ma prudence par-dessus les moulins. « Il est nécessaire que je vous parle à la reine et à vous. » Il serait peut-être utile que Devoir soit présent lui aussi.